VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorsil et Anastasie Tudiech, bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition du mercredi 23 mars 2016. Au sommaire ce soir.
Attentat de Bruxelles, le bilan officiel provisoire est de 31 morts et 270 blessés. Nous ferons le point sur l'enquête.
Au Niger, la Cour de cassation annonce qu'il n'y aura pas de procès pénal pour le moment contre l'opposant Ama Amadou.
Ce qui est sûr, c'est que l'arrêt de la Cour d'appel est aujourd'hui cassé et annulé, de sorte qu'il ne reste que le jugement qui s'est déclaré incompétent.
Au Tchad, vague d'arrestation des leaders de la société civile à moins de 3 semaines de la présidentielle.
Mais deux fois deux mesures, nous sommes dans une période de campagne électorale, c'est vrai, mais notre constitution ne fait aucune restriction pour les manifestations.
Violence au Burundi, deux officiers de l'armée abattus en 2 jours à Bujumbura.
Politique américaine, Jeb Bush offre son appui au sénateur Ted Cruz qui essaie de rattraper le très controversé Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Actualité oblige, nous ouvrons sur les événements en Belgique. Les frères Ibrahim et Khalid El-Bakraoui ont été identifiés comme deux des kamikazes des attentats coordonnés de Bruxelles qui ont fait au moins 31 morts et 270 blessés hier mardi, a indiqué aujourd'hui le procureur fédéral belge Frédéric Van Leuf. Le point avec John Linden.
Les frères belges El-Bakraoui ont été identifiés comme deux des trois kamikazes des attentats de Bruxelles, a indiqué mercredi le procureur fédéral belge Frédéric Van Leu. Le troisième suspect, vêtu d'une veste claire et d'un chapeau, est en fuite, a-t-il poursuivi, soulignant que ce dernier est activement recherché. Les deux frères terroristes décédés avaient de lourds antécédents judiciaires non liés au terrorisme, a rappelé le procureur. Par ailleurs, le kamikaze Ibrahim El-Bakraoui a abandonné dans une poubelle un ordinateur contenant son testament. La poubelle se trouvait dans une rue de la commune bruxelloise de Schaarbeek, où la police a mené une série de perquisitions mardi, découvrant 15 kilos d'explosifs. Toujours à Schaarbeek, une autre perquisition a eu lieu mardi soir où une personne a été interpellée et est actuellement entendue par les enquêteurs selon le parquet. Le testament d'Ibrahim El-Bakraoui, visiblement confus, ne semble comporter aucune référence à l'organisation djihadiste État islamique qui a revendiqué les attentats ayant fait plus de 30 morts et quelques 270 blessés mardi à Bruxelles.
L'Union européenne doit arrêter ses jeux géopolitiques et s'unir avec la Russie dans la lutte contre les terroristes. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au lendemain des attentats de Bruxelles. L'appel de Sergueï Lavrov intervient sur fond de pression diplomatique internationale visant à résoudre le conflit en Syrie. La Syrie sera d'ailleurs l'un des sujets au programme d'une rencontre du ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, cet après-midi, avec le président Vladimir Poutine. Il sera suivi par le secrétaire d'État américain John Kerry, attendu dans la journée dans la capitale russe.
La Cour de cassation du Niger a rendu ce matin un arrêt dans l'affaire de trafic présumé de bébés dans laquelle est impliqué Ama Amadou. Elle a annoncé que l'opposant et candidat malheureux à la présidentielle Ama Amadou ne fera pas l'objet d'un procès pénal pour l'instant. La Cour a cassé une décision de la Cour d'appel de Niamey relative à la compétence du juge de première instance qui avait fait valoir son incompétence au début de l'affaire. Écoutons l'un des avocats de Ama Amadou, Maître Mossi Boubacar.
La seule décision qui a valeur, qui a force de décision aujourd'hui, c'est le jugement du premier juge qui s'est déclaré incompétent et qui a dit qu'à défaut d'une procédure préalable pour statuer sur la filiation, il ne peut pas y avoir de procédure pénale. Ce qui est sûr, c'est que l'arrêt de la Cour d'appel est aujourd'hui cassé et annulé, de sorte qu'il ne reste que le jugement qui s'est déclaré incompétent. Ce n'est pas la fin parce que la Cour, l'arrêt a renvoyé devant la même juridiction, mais autrement composée.
Mossi Boubacar, avocat de l'homme politique nigérien Ama Amadou, rappelant que le président Mahamadou Issoufou a remporté le second tour à plus de 90% des voix, ce que conteste l'opposition. Le président nigérien se dit prêt à mettre en place un gouvernement d'union nationale avec l'opposition pour faire face aux menaces auxquelles le pays est exposé.
L'actualité de ce mercredi, c'est aussi au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Mokoko, candidat de l'opposition, qui conteste les résultats de la présidentielle, donnant hier le président sortant Denis Sassou Nguesso vainqueur, avec plus de 67% des voix. Le général Mokoko a appelé à un recompte des voix.
Un autre officier de l'armée burundaise, le major Didier Mouimpundu, a été tué hier soir dans un bistrot au centre de Bujumbura, quelques heures après le meurtre du lieutenant-colonel Darius Ikurakure au local de l'état-major. L'armée a confirmé, mais les circonstances de ce nouveau décès restent inconnues. Reportage à Bujumbura de Christophe Runziza.
Le major Didier Mouimundu a été tué mardi soir alors qu'il répondait à un appel d'une personne en sortant du cabaret Hibiscus sur l'avenue de la Grèce au centre-ville de Bujumbura. Des témoins indiquent qu'un piège lui a été tendu sans connaître exactement les mobiles du crime. Officier d'origine ethnique Tutsi, il est mort quelques heures après l'assassinat du lieutenant-colonel Darius Ikurakure de composante sociale Hutu, abattu par un homme en tenue militaire dans les enceintes de l'état-major général de l'armée burundaise. Ce dernier a été cité dans des enlèvements et des tueries des jeunes qui ont manifesté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza en avril dernier. Mais plusieurs personnes continuent à se poser des questions sur la mort de ces deux officiers, surtout que le premier s'est déroulé près d'un tableau d'affichage de l'état-major de l'armée au moment de la pause de midi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le Zimbabwe donne aux entreprises étrangères jusqu'au 1er avril pour céder la majorité de leurs parts à des investisseurs locaux. Sinon, elles seront obligées de mettre la clé sous la porte. Idriss Fall.
Pour le ministre zimbabwéen de la justice Patrick Zouao, la loi est la loi, elle doit être respectée. Ces lois d'indigénisation ont été promulguées en 2008 par le président Robert Mugabe. Elles exigent que la majorité des parts des entreprises, 51%, soient détenues par des Zimbabwéens noirs. Hier, mardi, le gouvernement a sonné le rappel et donne aux compagnies étrangères jusqu'au 1er avril pour appliquer ces lois ou voir leur licence annulée. Le FMI a déjà exhorté le Zimbabwe à réviser sa politique car son économie est dans une crise profonde depuis une décennie. C'était après une réforme agraire qui avait expulsé des milliers de fermiers blancs de leurs terres au profit d'anciens combattants noirs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour pénale internationale va poursuivre la fourmi blanche, surnom de l'ancien chef de guerre ougandais Dominic Ongwen. Dans un communiqué publié aujourd'hui, les juges affirment avoir rassemblé suffisamment de preuves contre cet ancien chef de guerre de la sanguinaire rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA.
Au moins 40 combattants d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique ont été tués et 25 blessés dans une frappe aérienne américaine au Yémen. Les précisions tout de suite d'Idrissa Seydoudia.
La frappe a visé mardi un camp d'entraînement du groupe djihadiste à Hajr, à l'ouest de Mukalla. Cette ville portuaire est contrôlée par Al-Qaïda depuis près d'un an, dans la foulée de la guerre entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles chiites houthis pro-iraniens. Selon l'AFP, qui cite une source locale, les victimes étaient surtout de nouvelles recrues qui s'entraînaient dans cette région montagneuse. Il s'agit là d'un sérieux coup porté au réseau extrémiste qui élargit son influence et pourrait se procurer un havre sûr pour des attaques contre les Américains.
La course à l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de novembre ici aux États-Unis reste incertaine malgré l'avance de Donald Trump. Les ténors du parti continuent de se liguer contre le candidat très controversé, craignant perdre en novembre face aux démocrates. Ce mercredi, le sénateur Ted Cruz a obtenu l'appui officiel de l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush. Michel Joseph.
Jeb Bush a annoncé mercredi qu'il soutenait la candidature de l'ultra-conservateur Ted Cruz pour le bien du Parti républicain et du pays. Nous devons dépasser la vulgarité et la division que Donald Trump a introduite dans l'arène politique où nous perdons nos chances de battre le candidat démocrate, probablement Hillary Clinton. Tels sont les propos de Jeb Bush, repris par l'AFP. Ted Cruz s'est dit dans un tweet honoré du soutien de Jeb Bush. La décision de l'ancien gouverneur de Floride, qui a dû lui-même abandonner la course après de piètres performances, intervient au lendemain d'une autre série de primaires et d'assemblées électorales qui ont conforté Donald Trump à la tête du peloton. Avec sa victoire hier dans l'Arizona, il compte maintenant 739 délégués contre 465 pour Ted Cruz, vainqueur dans l'Utah. Avec seulement 143 délégués à son acquis, Le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, lui, n'a mathématiquement aucune chance. Dans le camp démocrate, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton a remporté une écrasante victoire dans l'Arizona, mais le sénateur Bernie Sanders a rebondi dans l'Idaho et l'Utah avec un score de plus de 70%.
Les Pays-Bas ont évacué et fermé ce matin leur consulat général à Istanbul à la suite de menaces terroristes, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Au moment de l'évacuation, le consul et environ 40 employés étaient présents dans le bâtiment et ils continuent autant que possible de travailler depuis d'autres bâtiments, a ajouté le ministère. Istanbul a été la cible d'un attentat suicide samedi qui a tué au moins 4 touristes étrangers et fait une trentaine de blessés sur une célèbre avenue du centre-ville. Les autorités turques avaient mis en cause le groupe État islamique.
Le président Obama s'est entretenu aujourd'hui à Buenos Aires avec le nouveau président argentin Mauricio Macri, signalant un rapprochement entre les deux pays. Obama est en Argentine après une visite historique à Cuba.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lyndon tout de suite.
Aliko Dangote invite ses pairs entrepreneurs africains à se saisir de ce moment de ralentissement de l'économie mondiale pour investir sur le continent. L'Omanian Nigérian s'exprimait au 4e Africa CEO Forum qui s'est achevé hier à Abidjan. Dangote a indiqué que les nombreux défis que doit relever l'économie africaine sont une opportunité pour investir. C'est le meilleur moment d'investir et de faire les acquisitions parce que les prix des actifs sont en recul et les bonnes affaires nombreuses. De nombreux pays africains font face au déficit ou à la lenteur de l'Internet. Comment se porte le marché des ordinateurs dans un tel environnement et surtout lorsqu'on sait que les tablettes et les téléphones portables se vulgarisent? Nous avons posé la question à Gaël Nana, chef d'agence des miracles informatiques à Douala au Cameroun.
Oui, effectivement, la concurrence des tablettes et des smartphones bouleverse en quelque sorte le marché de l'informatique. Les ventes en ordinateur ont fortement baissé. Les clients comptent entre ces petites tablettes, ces petits smartphones. Tout le monde veut pouvoir être converti d'un tactique en tactique. Donc, et la meilleure façon de l'être, c'est par des smartphones, c'est par des tablettes.
Gaël Nana, chef d'agence de Miracle Informatique à Douala au Cameroun.
C'était la Minute Éco. Merci, John Lyndon.
Pour les sports, nous avons avec nous Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Parlons de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017.
Le Bénin s'est imposé face au Soudan du Sud 2-1 ce mercredi à Djouba. Les écureuils prennent provisoirement la tête du groupe C. Emmené par Stéphane Sessegnon, auteur de l'ouverture du score dans le premier quart d'heure, le Bénin effectue une bonne opération avec 5 points. Le Bénin prend provisoirement la tête du groupe C. Le Mali, qui reçoit la Guinée équatoriale, repassera devant les écureuils en cas de victoire.
Un match à Djouba qui avait lieu sous les yeux du nouveau président de la FIFA.
Oui, Giovanni Infantino se trouve dans la capitale du Soudan du Sud. Il a inauguré les locaux de la Fédération Sud-Soudanaise de football. On se souvient que le Soudan du Sud avait été le premier pays africain à annoncer qu'il ne suivrait pas la consigne de la CAF de soutenir le cheikh Salman en appelant à voter pour Gianni Infantino lors de l'élection du président de la FIFA.
Et qu'en est-il des autres rencontres de ce mercredi?
Dans le groupe G, Tchad contre la Tanzanie. Dans le groupe F, la Libye en déplacement à Sao Tomé et Principe. Dans le groupe E, Guinée-Bissau, Kenya et Zambie-Congo. On rappelle que les premiers de chacun des 13 groupes seront qualifiés, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes et le Gabon, évidemment, en tant que pays organisateur.
Vendredi, Guinée-Malawi, match qui aura bien lieu à Conakry malgré Ebola.
La rencontre comptant aussi pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017 aura bien lieu dans la capitale guinéenne. C'est ce qu'a annoncé la CAF. La Fédération malawite avait demandé sa délocalisation en raison de la réapparition de cas d'Ebola en Guinée.
Délocalisation en revanche, Nicolas, du match Belgique-Portugal, mais pour d'autres raisons.
Le match amical initialement programmé le 29 mars à Bruxelles est annulé évidemment au lendemain des attentats dans la capitale belge. Il aura finalement lieu le même jour à Leiria, dans le centre du Portugal. C'est ce qu'a annoncé la Fédération portugaise de football.
On termine en basket, NBA, championnat de basket nord-américain.
Charlotte et son duo magique, Nicolas Batum, Jeremy Lin, ont enchaîné hier soir une deuxième victoire d'affilée en s'imposant à Brooklyn 105 à 100. C'est le 11e succès en 13 matchs au mois de mars de l'équipe. Succès également de Miami à la Nouvelle-Orléans 113 à 99. À l'ouest, Oklahoma City s'est imposé contre Houston 111 à 107.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech et Chérubin Lorcy dans votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour. Notre première escale ce soir, N'Djamena.
La porte-parole du gouvernement tchadien du mouvement tchadien Trop c'est trop, Céline Narmadji, a été arrêtée et placée en garde à vue à N'Djamena à la suite de 3 autres militants arrêtés pour avoir appelé à manifester contre le président Idriss Déby Itno. Les 3 autres leaders sont Mahamat Nour Ahmed Ibedou, porte-parole de la coalition Ça suffit, Nadjo Kaina, porte-parole du mouvement Iigna, et Younous Mahajir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, l'UST. Nathalie Barge a joint le président de l'UST, Michel Barka.
Les 3 ont été soumis à une audition toute la journée hier. Et cette audition qui a fini hier après-midi par une rencontre avec le procureur qui, semble-t-il, a annoncé qu'il les garde encore pour le besoin de l'enquête.
Que leur est-il reproché ?
Vous savez, il y a depuis un certain temps que les organisations de la société civile se sont constituées en plateforme. Et ces plateformes ont réagi collectivement pour dire que le président Déby a déjà passé 25 ans au pouvoir et qu'ils ne sont pas d'accord encore une fois qu'il se présente pour les élections qui arrivent. Globalement, on pense que 25 ans, c'est trop et que ça suffit. Et donc, des actions ont été programmées pour protester justement contre cette candidature. Il y a donc des marches qui étaient prévues et c'est donc à la veille de ces manifestations que ces arrestations ont commencé.
Que pensez-vous de cette interdiction de manifester qui finalement donne l'autorisation seulement aux manifestations pour des candidats à la présidentielle ?
Mais deux fois deux mesures, nous sommes dans une période de campagne électorale, c'est vrai, mais notre constitution ne fait aucune restriction pour les manifestations au Tchad. La liberté de manifester est reconnue et dans la constitution, il n'y a pas de raison qu'on nous dise pour une raison ou pour une autre qu'on ne manifeste pas. C'est un abus et en plus, en période de campagne, on ne peut pas être sélectif. Demander à certains de faire des manifestations parce qu'ils sont en campagne, à d'autres qui contestent cette même campagne de ne pas faire de manifestations. Et nous pensons que toutes ces mesures visent à nous intimider, à nous empêcher de nous exprimer, à nous empêcher de revendiquer.
Et est-ce que malgré ces interdictions de manifester, la société civile va encore s'organiser pour manifester ?
Absolument, madame. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons continuer à manifester. Et nous nous préparons d'ailleurs à une autre manifestation. Bientôt, d'ici le 29, il y aura une grande manifestation. Et je crois que dans les prochains jours, nous allons tous nous entendre pour sortir à la fois, manifester et dire ce que nous pensons au gouvernement. Et nous trouvons quand même assez grave que les gens ne regardent pas la situation de la population dans le pays, mais se contentent du fait que le président Déby, le type qui fait la guerre contre les terroristes, c'est celui-là qui intervient partout et il mérite d'être soutenu. En fait, nous sentons que beaucoup de pays amis et certains membres de la communauté internationale pensent que c'est le prix qu'il faut payer et négliger la population tchadienne. Et fort de ce soutien, nous empêche de nous exprimer et même les libertés les plus élémentaires sont bafouées, et ça sous le nez de la communauté internationale présente ici dans le pays.
Michel Barka, le vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, joint N'Djamena.
Dans Washington Forum cette semaine, la visite historique de Barack Obama à La Havane. De l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à ce premier voyage d'un président américain depuis 90 ans, retour sur un demi-siècle de relations conflictuelles entre les États-Unis et Cuba. Après l'embargo, quel avenir ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Et bien sûr, c'est Tatiana Mosso qui présente Washington Forum. Au Congo-Brazzaville, le président sortant Denis Sassou Nguesso aurait obtenu plus de 67% des suffrages au premier tour de la présidentielle. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à la présidence, conteste ces résultats. Les télécommunications sont coupées depuis dimanche, jour de scrutin. Et pourquoi ce pays est coupé du monde depuis bientôt 4 jours ? Idriss Fall a recueilli l'avis d'Ellie Smith, journaliste expulsé de Brazzaville, maintenant basé à Washington.
Officiellement, le gouvernement congolais dit que c'était pour éviter qu'il y ait des fuites d'informations pendant les élections présidentielles. Mais la réalité est que vu que nous sommes au 21e siècle avec la technologie des réseaux sociaux, le gouvernement avait peur que la réalité puisse apparaître dans le monde entier. Voilà la raison pour laquelle ils ont coupé la communication. Pour citer un ministre qui ne veut pas être nommé, il dit « Nous voulons tricher, mais non, on ne veut pas que le monde voie ce qui se passe. »
Mais normalement, ça devrait durer 2 jours, dimanche et lundi, mais on est mercredi, non?
Exactement. Ils ont dit qu'ils vont couper jusqu'à peut-être vendredi, selon les informations que j'ai eues aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été surpris que malgré le fait que ça a été suspendu, tous les procès-verbaux sont à la disposition de tout le monde. Donc, ils ont peur que si on lève cette interdiction, il peut y avoir un soulèvement parce que la population, il y aura des communications par téléphone et puis les gens vont peut-être contester leur victoire.
Comment les gens font au quotidien pour communiquer?
Il y a 2 ou 3 manières. La première que les activistes ont fait, que beaucoup de gens ont téléchargé une application qu'on appelle FireChat. C'est ça qu'ils utilisent. D'autres ont acheté les puces de la République démocratique du Congo. Vous savez, la RDC, c'est le grand voisin de notre Congo. Donc, ceux qui ont cette possibilité d'avoir des applications ou des puces de la République démocratique du Congo peuvent communiquer. Sinon, la troisième option est qu'il y a d'autres qui ont les moyens de communiquer par satellite.
Comment expliquez-vous qu'en Afrique centrale, les chefs d'État rivalisent à rester le plus longtemps possible au pouvoir?
Ça s'explique parce qu'en Afrique centrale, il y a une dictature féroce. Vous savez, c'est les gens qui, apparemment, quand vous voyez les chefs d'État de l'Afrique centrale, ils sont toujours tirés à 4 épingles. Ils ressemblent à 2 gouttes aux Occidentaux. Et puis la deuxième manière est qu'en Afrique centrale, contrairement en Afrique de l'Ouest, la société civile est détruite par un pouvoir hyper fort. Donc voilà la raison pour laquelle ces chefs d'État mettent longtemps. Et puis cerise sur le gâteau, c'est le soutien que la France donne à ses chefs d'État, parce que ce sont des régions qui sont riches potentiellement en hydrocarbures et d'autres minerais.
Ellie Smith, journaliste camerounais basé à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
À Libreville, la résidence hôtelière Le Maïcha est mise sous scellé par la Direction générale des impôts. L'administration exige le paiement dans un délai de 8 jours de 4,2 milliards de francs CFA dans le cadre d'un redressement fiscal. Mais la patronne de l'établissement, Chantal Miboto-Gondjou, n'est pas une inconnue. Elle est l'ancienne maîtresse d'Omar Bongo et sa fille, Onaïda Maïcha Bongo Ondimba, est engagée dans une bataille judiciaire autour de l'acte de naissance présumé faux de l'actuel chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Pour la propriétaire de cet hôtel, cette mise sous scellé n'est autre qu'un règlement de compte politique. À Libreville, les précisions de Jean-Rovis Dabani.
Pression politique, l'opposante Chantal Miboto en est sûre. La mise sous scellé de son hôtel est motivée par des raisons politiques. Depuis lundi, le Maïcha, résidence hôtelière de luxe située dans le quartier UP de Libreville, a été placé sous scellé par les agents de la Direction générale des impôts. Pas de doute pour la patronne de cet hôtel qui a reçu les journalistes devant son établissement désormais barricadé, c'est une affaire politique. Chantal Miboto.
Nous savons pertinemment, et je l'affirme haut et fort, qu'en général, la Direction générale des impôts n'est qu'un instrument de la présidence de la République pour régler des comptes à la résidence hôtelière de Maïcha, mais particulièrement à Chantal Miboto-Gondjou.
Chantal Miboto est la fille de l'opposant Zakari Miboto, président du principal parti de l'opposition, l'Union nationale. Elle est aussi la mère d'Onaïda Maïcha Bongo, née d'une union avec Omar Bongo. C'est sa fille qui a porté plainte pour faux et usage de faux en France contre l'acte de naissance de son demi-frère, l'actuel chef de l'État, Ali Bongo, mais la plainte a été classée sans suite. Il y a une semaine, l'opposante avait lancé un défi à Ali Bongo de venir prouver publiquement qu'il est bien le fils d'Omar Bongo.
Je sais très bien que l'élément déclencheur est l'acte de naissance, et bien nous allons aller à l'acte de naissance. Et comme je l'ai déjà dit samedi à Ali Bongo, le débat entre toi et moi est là, là je m'adresse à l'héritier. Le débat entre toi et moi, nous devons l'avoir et je veux que tu viennes me prouver de manière officielle devant tous les Gabonais que tu es réellement le fils d'Omar Bongo.
Le redressement fiscal n'a rien de politique, a réagi pour sa part le ministre de l'économie, Régis Imongol.
Mais comme toute personnalité morale ou physique, il est clair qu'il y a des obligations fiscales qu'il faut les respecter, c'est tout.
Et je pense qu'on examine tous les dossiers avec transparence, avec objectivité.
La polémique autour de l'état civil d'Ali Bongo, accusé d'être un enfant adoptif né au Nigeria, s'est étalée depuis un an dans la presse gabonaise. La présidence a régulièrement démenti ses assertions et porté l'affaire en justice. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En Égypte, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sissi a remanié son gouvernement aujourd'hui et a annoncé la création d'un nouveau portefeuille pour les entreprises. Les changements les plus importants concernent les ministères des Finances, des Investissements, du Travail et du Tourisme. Un remaniement qui intervient à un moment où l'économie égyptienne sous al-Sissi est dans le rouge. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint le professeur Howaïda Mostafa de l'Université du Caire. Elle commente d'abord l'avertissement émis aujourd'hui par 13 organisations internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty International, qui craignent de voir ce qu'elles estiment les derniers défenseurs des droits de l'homme en Égypte emprisonnés. Professeur Mostafa.
Je ne peux pas dire directement que c'est inquiétante, mais on peut dire que la situation qui concerne la sécurité ou bien l'état de la sécurité en Égypte, après les deux révolutions, ne donne pas une ambiance ou bien un environnement de confiance entre les organisations qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme, le gouvernement ou bien le régime. Et toujours, il y a un état de méfiance entre les deux, manque de confiance. Récemment, le gouvernement a commencé à avoir un régime de surveillance gouvernementale sur les organisations qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme. Je ne peux pas dire que la situation est tellement grave, mais il y a un malentendu, je crois, entre les deux côtés, parce que souvent, il n'y a pas de clarté en ce qui concerne les arrêtés ou bien les prisonniers. Je ne crois pas que le nombre est tellement grand.
Pendant ce temps, l'Égypte a annoncé ce mercredi un remaniement ministériel touchant principalement les portefeuilles économiques avec l'entrée au gouvernement de 10 nouveaux ministres. L'économie égyptienne peine à se relever depuis la révolte de 2011. Touristes et investisseurs étrangers ont déserté le pays alors que les attentats djihadistes se sont multipliés. Le président Abdel Fattah al-Sissi tente-t-il donc d'inverser la situation?
On a beaucoup de problèmes sur le domaine économique. Bien sûr, après 2011, il y a un manque de tourisme et une crise en ce qui concerne tout ce qui se passe sur le terrorisme qui a vraiment éclaté dans les différentes régions en Égypte. Et ce qui a des impacts négatifs sur le tourisme, on a aussi manque des investissements, malgré que l'Égypte a organisé un grand forum économique, mais jusqu'à maintenant, le bilan d'investissement est encore affecté par le terrorisme. Je crois que ce remaniement a un grand objectif, ce qui concerne l'économie et les investissements. Mais surtout, je crois que l'état sécuritaire affecte toujours l'économie. Le problème, ce n'est pas juste de faire changer les ministres. L'environnement et la situation politique aussi internationale affectent encore la situation économique parce qu'il y a un manque d'investissement. Alors, je crois qu'on a besoin de beaucoup d'efforts pour faire améliorer l'économie égyptienne.
Professeur Howaïda Mostafa était en ligne du Caire, la capitale égyptienne.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Michel Joseph. Assistance technique à la console, Al Santos. Et à la présentation, Anastasie Tudiège et chérubin Gabi Dorsil.
C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour notre magazine. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com. Pour plus d'infos, 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.